Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, dirigé par le linguiste et lexicographe Alain Rey. Avec Frédéric Duval et Gilles Siouffi, 1000 ans de langue française, tome 1, est une synthèse historique consacrée à la formation du français. Cet essai de linguistique historique suit un parcours qui mène des langues présentes sur le territoire de la future France, notamment le gaulois et le latin, vers un français moderne, capable de porter des usages littéraires, administratifs, sociaux et internationaux. Le volume couvre les origines jusqu'au XVIIIe siècle, période où le français classique acquiert un prestige européen considérable. Son propos ne consiste pas à raconter la marche régulière vers une langue parfaite ou immobile. Il insiste au contraire sur la pluralité des pratiques, sur le poids des dialectes et sur les effets continus des contacts entre population, pouvoir et culture. Le livre relie ainsi les transformations des mots et des formes aux conditions historiques de leur circulation. Il propose une histoire de langue qui est aussi une histoire sociale et culturelle de la France. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, du gaulois et du latin à une langue romane en construction, le point de départ du livre est essentiel pour éviter une vision simplifiée des origines du français. Le français ne procède pas directement du latin écrit et scolaire tel que les lecteurs modernes peuvent le connaître. Il se forme dans les usages oraux du latin implanté en Gaule, au contact de langues antérieures, dont le gaulois, puis dans un environnement marqué par les évolutions politiques et démographiques de la fin de l'Empire romain. Le gaulois disparaît progressivement comme langue principale, mais cette disparition ne signifie pas une absence totale de traces dans les usages ultérieurs. Inversement, le latin ne demeure pas identique à lui-même ses pratiques parlées, se diversifie et se transforme selon les régions et les groupes sociaux. Cette double dynamique permet de comprendre pourquoi le français est une langue romane, sans être un simple latin altéré. Les auteurs mettent en valeur le caractère graduel du changement linguistique. Les systèmes de prononciation, de grammaire et de vocabulaire évoluent dans la communication ordinaire avant que les institutions et les textes ne les fixent partiellement. Cette perspective replace les premiers états du français dans une histoire de pratique vivante plutôt que dans une généalogie abstraite. Elle montre aussi que la continuité avec le latin et la rupture avec lui doivent être pensées ensemble. Deuxièmement, les dialectes et les usages locaux contre le mythe d'un français unique. Une contribution majeure de cet ouvrage réside dans son refus de présenter le français comme une entité homogène qui se serait imposée naturellement sur tout le territoire. Durant une grande partie de son histoire, les habitants de ce qui deviendra la France parlent des variétés diverses, issues du latin des Gaules et modelées par des cadres régionaux. Les dialectes ne constituent donc pas de simples versions dégradées de la langue légitime, ils sont des formes historiques de parole, avec leur logique propre et leur zone de diffusion. Le livre invite à considérer la coexistence, les échanges et parfois la concurrence entre ces pratiques. La langue écrite, les centres de pouvoir et les milieux cultivés contribuent progressivement à donner davantage de visibilité à certaines normes. Mais cette sélection ne supprime pas instantanément la diversité. Cette approche a une portée critique. Elle permet de distinguer la réalité des pratiques linguistiques de la représentation rétrospective, selon laquelle une norme actuelle aurait toujours existé. Elle éclaire également les rapports entre langue et hiérarchie sociale, une variété devient dominante non seulement en raison de ses qualités internes, mais aussi parce que des institutions, des réseaux administratifs et des productions culturelles lui donnent une force de circulation. Le français apparaît ainsi comme un ensemble mobile de pratiques en interaction et non comme un bloc inchangé. Troisièmement, les influences germaniques et les contacts de langue dans le Bas-Empire. Le livre situe la naissance du français dans une zone de contact plutôt que dans un isolement linguistique. Les influences germaniques, particulièrement sensibles dans le contexte du Bas-Empire et des transformations qui suivent, participent à cette histoire complexe. Leur importance ne doit pas conduire à nier le fond roman du français, qui demeure déterminant, mais elle rappelle que les langues changent aussi par voisinage. Domination politique, mobilité des groupes et emprunt. Les auteurs décrivent un espace où le latin parlé évolue, tandis que des populations et des pouvoirs nouveaux modifient les conditions de communication. Cette donnée historique aide à comprendre que le vocabulaire, les habitudes de désignation et certains traits de culture linguistique sont liés à des contacts concrets entre locuteurs. Plus largement, le sujet conduit à rejeter deux erreurs symétriques, imaginer une origine pure du français ou réduire son histoire à une succession désordonnée de mélanges. La formation d'une langue résulte de transformations structurées, dont certaines sont internes à la langue romane et dont d'autres proviennent de relations avec des langues voisines. En reliant les faits linguistiques au cadre historique, le volume rend ces interactions intelligibles sans les exagérer. il montre que la diversité des apports est constitutive de la richesse du français et que la notion de langue nationale ne doit pas effacer les siècles de contacts qui ont précédé. Sa stabilisation. Quatrièmement, la langue comme fait politique, social et culturel, 1000 ans de langue française ne séparent pas artificiellement histoire linguistique et histoire générale. Les changements de langue sont examinés en relation avec les institutions, les pratiques sociales, la circulation des textes et les formes de prestige culturel. Cette méthode est particulièrement utile pour comprendre comment certaines manières de parler ou écrire acquièrent une autorité plus large que les autres. Une norme ne naît pas seulement de règles grammaticales, elle dépend aussi de lieux où la parole est enregistrée, enseignée, administrée et valorisée. Les transformations politiques et sociales modifient ainsi les publics de la langue, les besoins de communication et les voies par lesquelles certains usages se diffusent. Le livre propose donc une histoire qui relie les mots aux sociétés qui les emploient. Cette articulation empêche de traiter la langue comme un objet détaché de ses locuteurs. Elle permet aussi de mieux saisir les écarts entre langue parlée et langue écrite, entre pratiques locales et usages de portée plus vaste. Les anecdotes et les exemples historiques signalés dans la réception de ouvrages ne servent pas seulement à alléger une vaste synthèse, ils donnent une matière concrète aux mécanismes de transmission et de transformation. Pour le lecteur, le bénéfice est de voir que les débats sur la correction, la norme ou la légitimité ont des racines historiques et sociales, plutôt que de relever de vérités intemporelles. En dernier lieu, le XVIIIe siècle et le prestige européen du français classique, le premier tome conduit son enquête jusqu'au XVIIIe siècle, souvent associé au classicisme et à une forte reconnaissance internationale du français. Cette étape finale ne doit pas être lue comme la conclusion définitive d'une évolution linéaire. Les auteurs la présentent plutôt comme un moment de très grande visibilité, où des usages codifiés et des productions culturelles françaises obtiennent une influence notable, notamment dans la diplomatie européenne. Le prestige du français à cette période repose sur des conditions historiques précises, poids politique et culturel de la France, réseau de sociabilité, diffusion de écrits et valorisation de certaines normes. Il ne prouve pas que la langue aurait atteint une perfection objective. Cette nuance est centrale dans un ouvrage qui se méfie des récits figés de la langue. En faisant du français classique un aboutissement historique sans le transformer en modèle absolu, le livre conserve la dynamique qui traverse toute son analyse. Le français moderne est apte à exprimer des domaines variés, mais il reste soumis aux usages, aux innovations et aux circulations qui caractérisent toute langue vivante. La borne du XVIIIe siècle donne ainsi une cohérence au volume tout en préparant implicitement les évolutions ultérieures. Elle aide le lecteur à comprendre pourquoi le français a pu devenir une langue de référence en Europe, sans confondre son rayonnement historique avec une uniformité réelle des pratiques. En conclusion, ce premier tome convient aux lecteurs qui souhaitent comprendre la langue française au-delà des listes de règles, des étymologies isolées ou des récits nationalisés de ses origines. Il intéressera particulièrement les étudiants en lettres, linguistiques, histoire et sciences sociales. Mais reste utile à toute personne curieuse de savoir comment une langue devient à la fois un ensemble de pratiques quotidiennes, un instrument de culture écrite et un objet de prestige. Sa lecture apporte un bénéfice intellectuel concret, elle fournit des repères pour interpréter les différences entre oral et écrit, entre variétés régionales et normes dominantes, ainsi que les débats contemporains sur les emprunts et les changements de langage. Le livre se distingue des histoires brèves de la langue par son ambition de relier les transformations linguistiques aux cadres politiques, sociaux et culturels qui les rendent possibles. Il se distingue aussi des approches strictement grammaticales par son attention aux locuteurs, aux dialectes et aux contacts de langue. La direction assurée par Alain Rey, figure majeure de la lexicographie française, donne à ensemble une orientation attentive aux mots et à leurs usages sans réduire le sujet au vocabulaire. Malgré son ampleur, le projet garde une ligne claire, le français ne se comprend ni comme une essence fixe, ni comme une norme née de elle-même. Il est le résultat toujours provisoire de siècles de circulation, de variation et de sélection culturelle. Cette perspective fait de ce volume une référence solide pour situer le français moderne dans sa longue durée historique. Si vous souhaitez soutenir Alain Rey, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.